Voilà, pour discuter avec moi de ces sujets absolument passionnants, eh bien, trois experts, trois connaisseurs de la robotique. À ma droite, Stéphane Bobo. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Alors Stéphane Bobo, c'est le fondateur d'Innovate. Et Innovate, alors on l'a déjà reçu sur BFM Business, c'est le plus gros distributeur et importateur de robots chinois en France, notamment d'une marque qui s'appelle Unitri. C'est l'une des entreprises les plus avancées au monde dans le domaine de la robotique. Ils ont des robots ici, alors ça ne désemplit pas, on va en parler, on va expliquer tout ce que sont capables de faire ces robots. Et il fait le pont entre la France et la Chine en termes de robotique. Il va très souvent dans ce qu'on appelle la Robo Valley, c'est un peu la Silicon Valley chinoise, et il va nous raconter parce que c'est absolument fascinant. À ma gauche, Marine Protet. Bonjour Marine.
Bonjour.
Marine Protet, journaliste à La Tribune, spécialisée sur les sujets intelligence artificielle et robotique également, qui intervient parfois dans les experts de l'IA. Et donc on est ravis de l'avoir avec nous. Elle nous racontera ce qu'elle a vu sur ce salon, parce qu'il se passe beaucoup beaucoup de choses dans le domaine de la robotique. Et puis tout au bout du plateau, c'est Olivier Stas. Bonjour Olivier.
Bonjour Alexis.
Anthony, pardon. C'est pas très loin. Chercheur en robotique au CNRS, et vous êtes ici aussi au nom de Dynamograd, qui est un partenariat entre le CNRS et une entreprise de robotique espagnole qui s'appelle PAL Robotics. Vous venez présenter des robots aussi ici, et il y a aussi une filière européenne qui est en train de se mettre en place, et on va avoir l'occasion d'en parler. Puis là on a quelqu'un qui a, j'allais dire, les mains dans le cambouis algorithmique, et il pourra nous dire voilà ce qui est vrai, les démos, est-ce que c'est un peu trop beau pour être vrai, où est-ce qu'on en est réellement dans le développement de ces robots. Voilà. Pour commencer notre discussion, je vais me tourner vers Marine, parce que Marine, comme moi d'ailleurs, elle a arpenté les allées du salon ces trois derniers jours, ce grand salon de l'innovation Vivatech. Moi, j'ai été frappé par l'omniprésence des robots. Je n'avais pas vu ça les autres années. Donc, je voulais savoir si vous aviez le même sentiment que moi et ce que vous aviez vu de plus intriguant, interpellant, bluffant en matière de robotique.
Oui, bah exactement. Effectivement, je trouve par rapport aux autres années, ils ont une place considérable. Et ce qui m'a frappé, c'est que quand je suis rentrée dans le salon, la première minute, j'ai vu un petit robot humanoïde d'à peu près un mètre qui était en train de courir entre les visiteurs. Ouais. Et c'est vrai que ça. En plus, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a quelques années encore, enfin même deux ans, trois ans, quand on venait à Vivatech, le robot qui nous accueillait, c'était Pepper, donc ce robot qu'on disait humanoïde, mais qui était statique, qui nous parlait, nous indiquait les allées du salon, parfois de manière un peu aléatoire. Et que là, maintenant, effectivement, c'était... Alors, ce petit robot, il y avait derrière, pas très loin, une opératrice qui...
Une télécommande.
Qui le guidait avec une télécommande. Donc, voilà. Et puis, ce que je trouvais aussi frappant, c'est qu'il lui avait mis un petit... donc, c'est un robot qui s'appelle Booster, je crois, d'une marque chinoise qui est avant tout destinée, je pense, aux recherches universitaires, aux développeurs. Et il lui avait mis un petit chapeau avec des oreilles d'ourson pour le rendre, je pense, sympathique, parce que c'est vrai que c'est des robots qui ont des allures aussi parfois un peu effrayantes, intrigantes. Voilà, je pense aussi à cette vidéo virale que vous avez peut-être vue sur les réseaux sociaux qui a beaucoup tourné de Vivatech. On voit des robots humanoïdes en pleine chorégraphie et qui se mettent à casser écrans.
Les télés. On va en reparler de ça aussi, parce que c'est intéressant. Voilà. Parfois, c'est vrai qu'on a l'impression que tout est absolument parfait, et en réalité, les robots, j'allais dire, ils pètent les plombs. Mais déjà, dire qu'ils pètent les plombs, c'est faire preuve d'anthropomorphisme. C'est pas ça, juste ils bug ou ils sont pas conscients de leur environnement. En tout cas, c'est pas aussi parfait que ce qu'on pourrait vouloir nous faire croire à certains moments. Tiens, je vais me tourner vers Stéphane Bobo, sur le stand donc d'Innovate et donc d'Unitri, cette marque chinoise très avancée dans le domaine de la robotique. Ça désemplit pas, hein. Moi je suis passé plusieurs fois, il y a énormément de monde. Comme le disait Marine, ce qui est très malin, c'est que les robots, vous leur faire des chorégraphies, des choses incroyables. Donc là ils font quoi? Ils dansent, ils font du kung fu?
Oui, alors là ils montrent leur capacité incroyable de mouvement, d'équilibre, et c'est vrai que il faut quand même, souvent les visiteurs ont l'impression que ces machines sont déjà autonomes, alors qu'elles ne le sont pas. Elles sont toutes téléopérées aujourd'hui. On a quelques démonstrations d'autonomie parce qu'on est aux prémices, mais il faut voir que le vrai exploit, c'est leur capacité à garder cet équilibre, ce qui n'était pas encore possible il y a quelques années. C'est pour ça que ces robots ne sortaient pas des laboratoires et qu'ils étaient constamment attachés. Là, on les voit en mouvement libre devant les visiteurs, faire des acrobaties incroyables, danser. C'est pour valider le fait que le sujet de l'équilibre, qui est quand même un sujet essentiel pour la robotique demain, a été réglé.
On les voit à l'antenne, pour ceux qui nous regardent à la télé, c'est vrai que c'est absolument incroyable. Alors ça, c'est pas des images de Vivatech, hein, ce sont des images qui avaient été tournées sur d'autres salons, qui ont été tournées aussi par Unitri. Il y a des vidéos qui avaient été diffusées aussi à l'occasion du Nouvel An chinois à la télé chinoise.
Et qui a marqué le monde entier.
Ouais, franchement, c'était
fou. 1 milliard de vues.
Ouais, bah, c'est pas très étonnant, parce que là, pour le coup, on voit une chorégraphie, un ballet de robots avec un niveau de dextérité absolument, mais démentiel. C'est ça, ces robots, ils sont capables de faire ça réellement aujourd'hui, parce que vous disiez, ils sont télécommandés. Là, quand on les voit comme ça faire cette chorégraphie absolument incroyable, alors, c'est un ballet qui a été programmé, j'imagine.
Oui, tout à fait. En fait, aujourd'hui, ce qu'on démontre par ce genre de choses, c'est la capacité à faire du mimétisme avec les hommes, donc d'arriver à capter justement les mouvements humains et les transcrire dans un robot. Et d'ailleurs, sur le salon de Vivatech, on fait une démonstration avec une personne qui est bardée de capteurs et qui prend le contrôle sur le robot en temps réel. Et donc, lorsqu'il va bouger une jambe, le robot va bouger en simultané. Et c'est une des techniques qui permet de créer ce genre de show, de faire de la réplication, du mimétisme avec les hommes.
Avec la possibilité demain, parce que pour le coup, on pourrait avoir un robot téléopéré à l'autre bout du monde, où un humain pourrait voir par les yeux du bon robot et réaliser une opération, je sais pas, dans un entrepôt ou dans une usine.
Alors, on aura l'occasion d'en parler après. C'est déjà des choses qu'on est capable de faire, et on a déjà des solutions, entre autres avec des entreprises européennes, pour avoir de la téléopération à distance.
Alors, on va comparer les robots. Je vais me tourner vers Olivier Stas, qui est donc chercheur en robotique au CNRS et qui fait des démonstrations ici sur le salon Vivatech d'un robot qui s'appelle Kangaroo. Alors, qui, contrairement à ce que son nom indique, n'est pas vraiment un kangourou, c'est plus un humanoïde, en fait. Moi, c'est ça, je m'attendais à avoir un robot kangourou, je ne sais pas pourquoi. Mais en fait, il a deux bras et deux jambes. Qu'est-ce qu'il est capable de faire, ce robot ?
Alors la différence, la raison pour laquelle il s'appelle Kangaroo, en fait, c'est qu'il a un système d'actionnement très différent des robots chinois. D'accord. Donc en fait, la raison pour laquelle ces robots-là, ils sont capables de faire ces mouvements-là extrêmement dynamiques, c'est qu'en 2016, il y a un professeur américain du MIT qui a trouvé a utilisé une nouvelle gamme de moteurs. Et en fait, cette technique-là s'est répandue partout dans le système. On a fait un premier prototype qui a maintenant été qui a recopié complètement open source. D'accord, et qui est arrivé à faire ce genre de cette capacité de mouvement et d'impulsion, couplée avec l'intelligence artificielle. Et alors là, ce qui est intéressant avec ces nouveaux mécanismes artificiels, c'est qu'ils sont capables de prendre en compte la variabilité qu'on a sur un corps d'un robot humanoïde. Et si on reste dans une gamme, voilà, c'est le reinforcement learning marche très bien pour générer ce type de mouvement-là. Par contre, il y a un gros problème. C'est que ces moteurs chauffent. Donc, si vous regardez, il y a une petite vidéo qui a resurfacé là sur le semi-marathon de Pékin l'année dernière avec un H1 qui courait à toute vitesse, qui était absolument impressionnant. Voilà. Et là, en fait, le robot, il fait des pit stops comme dans une Formule 1. Et vous voyez tout le monde qui met de l'eau pour chauffer, refroidir les moteurs. Ce que n'a pas Kangaroo. Kangaroo est sur un système d'actionnement complètement différent et il est capable de sauter avec une chauffe beaucoup moins forte du système et il est capable de porter un poids beaucoup plus important, mais au prix d'une complexité mécanique plus importante.
Vous êtes plus fort qu'Unitri, c'est ce que vous êtes en train de dire. Vous n'avez pas besoin de rajouter de l'eau. Bon, après, les coureurs humains, ils ont aussi besoin de ravitaillement. Mais moi, cette vidéo, alors c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion d'en parler, mais elle est folle et je crois qu'on l'a d'ailleurs, on va pouvoir la diffuser. C'était sur le semi-marathon de Pékin, le robot qui, il faut le dire, explose le record du monde de semi-marathon humain en 50 minutes 26. Alors le record du monde,
c'est celui de cette année.
C'est celui de cette année, oui, c'est
celui
ça. Ah, vous
moi,
parliez
parle
de celui de l'année d'avant.
De l'année
oui,
d'avant.
Alors justement, mais c'est une très bonne transition parce que c'est de ça dont je voulais parler. C'est de l'accélération en réalité. Parce que effectivement, on a un robot qui cette année arrive à battre le record du monde humain alors que l'an dernier, il finissait difficilement le semi-marathon, je ne sais plus combien il avait fait, 1h30, et effectivement il fallait le refroidir à chaque fois. On le voit, c'est incroyable les images de ce robot. Il y a une foulée assez peu orthodoxe pour les amateurs de course à pied, mais enfin franchement, si ça me permettait de faire 50 minutes au semi-marathon, je courrais comme lui, il n'y a pas de souci. Et moi, c'est ce qui me frappe. Marine, je ne sais pas, vous faites vous aussi tous les grands salons high-tech, on est à la Vivatech, mais il y a aussi le CES de Las Vegas, il y a tous les grands salons. C'est l'accélération technologique. Moi, j'ai l'impression que là, en l'espace de 12 mois, j'ai vu plus d'innovation et plus d'accélération dans le domaine de la robotique que ce que j'avais vu ces 5 dernières années. Est-ce que vous faites ce constat aussi ?
Oui, je fais ce constat-là, et surtout en termes de manipulation, parce que sur la mobilité, on avait des robots qui étaient déjà capables de se... Il suffit d'aller voir un entrepôt Amazon pour le constater, ils se déplacent déjà très bien, ils savent naviguer. Mais c'est au niveau de la manipulation, de la dextérité. Et moi, je suis surtout très impressionnée, par exemple, par les mains robotiques qui arrivent, comme vous dites, à plier du linge, faire... vider, remplir un lave-vaisselle, ces actions-là qui sont quand même, demandent une dextérité assez importante. Je crois que vous le diriez mieux que vous, mais il y a eu plusieurs avancées qui expliquent cela. C'est aussi l'arrivée des modèles génératifs à la robotique qui ont permis ça. Des modèles aussi qui permettent de mieux analyser les images, des modèles qui analysent des images et qui transforment ça en action. Et aujourd'hui aussi ce qu'on appelle les world models, qui sont ces modèles qui simulent un monde virtuel, ce que développe par exemple Yann Lequin avec Amilabs et qui permet ces avancées assez fulgurantes.
Avec l'idée qu'en fait le robot va apprendre comme apprendrait quasiment un enfant humain en appréhendant le monde qui se trouve autour de lui. C'est ça la grande différence, Olivier, dans ce qui s'est passé ces dernières années, c'est-à-dire que c'est l'intégration de l'intelligence artificielle et le couplage avec la robotique qui fait qu'on a un niveau aujourd'hui de dextérité, de souplesse, d'agilité qu'on ne pouvait pas atteindre ces dernières années.
Alors, c'est un facteur, mais ce que je constate depuis 3-4 ans, c'est surtout un décloisonnement scientifique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de frontières. Les gens qui font des maths se mettent avec les gens qui font de la mécatronique, qui font du hardware, et ils travaillent tous ensemble pour avoir une accélération. Et ce qui se passe, ce qui est assez très intéressant, c'est que ça permet maintenant à des gens... Vous pouvez être un étudiant en master, j'ai le cas de figure là, un étudiant en master qui vient d'université, Sorbonne Université, École de Polytechnique d'Ingénieurs, il va dans la société espagnole, Pal Robotics, il travaille avec des gens qui sont aux États-Unis, Université de Berkeley, et c'est ce qui a permis au robot Kangaroo de marcher extrêmement vite. Et là, il a un papier co-auteur sur une nouvelle infrastructure logicielle avec Peter Abil, qui est un des pionniers depuis de nombreuses années là-dedans. Et donc du coup, tous ces facteurs-là, Internet, tout combiné, ça permet des facteurs d'accélération qu'on n'avait jamais vus.
Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai constaté aussi. Alors, sur un autre grand salon, je me souviens, il y a encore 3 ou 4 ans, j'affrontais un robot pongiste. Et je le battais. J'étais très content, mais j'ai un niveau camping, moi, au tennis de table. Et là, il y a quelques semaines, on parlait du robot de Sony qui arrive maintenant à battre des joueurs de tennis de table professionnels. Ça veut dire qu'il y a quand même eu une accélération considérable. Stéphane, un mot là-dessus. Et puis, on va parler de la Robo Valley, d'ailleurs.
Oui, bah, d'ailleurs, on a pu voir aussi des vidéos sur des robots Unitree en train de faire du tennis. Et donc, au-delà du ping-pong... Donc
il n'est pas encore tout à fait au point sur le tennis, je l'ai vu. Alcaraz a encore des beaux jours devant lui. Hein. Ouais, il y a encore un peu de boulot.
Mais c'est ce qui est impressionnant, c'est qu'on s'aperçoit qu'on peut s'attaquer finalement à des sujets extrêmement complexes, comme du basket, du tennis, enfin des choses avec plusieurs interactions. Donc, en effet, on est à cette phase d'accélération. Maintenant que ces problématiques d'équilibre ont été bien réglées, on s'attaque vraiment à l'intelligence robotique, au fait que les robots doivent comprendre le monde pour pouvoir interagir avec nous. Et ça, c'est beaucoup plus complexe. Alors, c'est moins waouh qu'une scène de karaté, mais c'est là où on a le gros challenge. Si demain, on veut que ces robots rentrent dans des entreprises, dans des usines, il va falloir que ces robots comprennent leur environnement.
Oui, parce que peut-être que ceux qui nous écoutent et qui nous regardent se disent depuis tout à l'heure, bon, des robots qui courent et qui jouent au ping-pong et qui font du kung-fu, c'est bien gentil. Dans la vie réelle, je ne suis pas certain que ça serve à grand-chose. Mais l'enjeu, c'est d'avoir une vitrine technologique pour ce qui pourra se passer après. Et l'étape d'après, c'est les robots qui pourront faire tout et n'importe quoi mieux que les êtres humains, Marine, c'est ça?
Oui, alors il y avait quand même, on parle de ping-pong, de tennis, il y a eu une démonstration que j'ai trouvée intéressante, c'était celle de Figure AI, qui est une entreprise américaine, donc qui fait des robots humanoïdes aussi, un petit peu comme ceux de Unitree, bon, qui ne sont pas encore en vente. Mais ils ont fait récemment un espèce de live stream qu'ils ont retransmis sur les réseaux sociaux, où on voyait un de leurs robots en train d'emballer des colis sur une chaîne une ligne de production, et en face de lui il y avait un stagiaire de l'entreprise qui faisait la même chose, et c'était je crois que c'était filmé sur 24 heures, et l'idée c'était de savoir qui allait emballer le plus de colis. C'est le stagiaire qui a gagné de quelques colis, voilà, mais il avait l'air bien épuisé à la fin. Ouais. Bon, par contre, encore une fois, c'était une tâche quand même très précise. Le robot, je pense, n'était pas capable de si on lui mettait un colis un peu différent ou s'il devait changer brutalement faire une autre tâche que le stagiaire peut faire, lui n'était pas capable de le faire.
Mais pour l'instant, en tout cas, parce que demain on aura des robots, parce que c'est ça l'enjeu, c'est de créer des robots multitâches, et c'est la grande différence avec les robots qu'on avait jusqu'ici dans l'industrie, qui pouvaient être programmés pour faire quelque chose de très très précis. C'est que maintenant on a des robots, je parle sous votre contrôle, Olivier, mais qui sont capables finalement d'imiter l'être humain, on peut le dire comme ça.
Alors merci Marine, c'est très bien, c'est tout à fait le point. En fait, le problème qu'il y a, c'est quand même les robots humanoïdes et les êtres humains sont très différents. Hein. La plupart de ces robots-là ont maximum 50 moteurs. Vous avez 600 muscles, 200 utilisés pour la marche. Donc le type de mouvement que vous pouvez faire est quand même largement supérieur à ce que peuvent faire les êtres humains. Donc du coup, je véhiculais cette idée qu'on va remplacer tous les êtres humains, j'y crois pas. D'accord. Maintenant, dire que ces robots-là ne sont pas utiles, à mon avis, c'est aussi une erreur. Il y a des industriels qui font vraiment très sérieusement, et je pense que Figure le fait très bien. Voilà, il y a des applications très précises où c'est pertinent. Je vais vous donner un exemple avec Airbus. 40% de leur temps, les ouvriers, hein, j'étais surpris, je crois que c'était 10%, et on a eu une réunion la semaine dernière, 40% de leur temps passe à aller chercher des outils. Et là, je pense qu'à nous, un robot humanoïde, dans un environnement pas très compliqué, aller chercher un outil, c'est quelque chose qui me paraît faisable dans quelques années. Par contre, il y a énormément de tâches où il faut une dextérité, une précision qui, on fait plein de tests, honnêtement, me paraissent, à l'heure actuelle, peut-être que d'ici 2 ans, ça a changé, reste quand même très difficile.
Mais alors là, vous vous inscrivez en faux avec toutes les vidéos qu'on voit, y compris d'ailleurs de la part du Nitri, parce que moi j'ai vu des vidéos du Nitri, de Figure AI, d'autres entreprises, de Boston Dynamics aussi, où on voit des robots faire des choses absolument incroyables et où on se dit, bah là j'ai un robot qui fait le lit, qui range des courses dans le frigo, qui vide le lave-vaisselle, et j'ai l'impression qu'il le fait aussi bien qu'un être humain, et un peu plus lentement en général, mais quasiment aussi bien. Est-ce que ça veut dire que ces vidéos-là aujourd'hui, elles sont un peu trop belles pour être vraies, elles sont enjolivées, elles sont tournées 10 000 fois et puis on garde la meilleure prise? C'est quoi la réalité aujourd'hui de l'avancée technologique de ces robots?
Alors c'est sûr qu'il y a beaucoup de ces vidéos qui sont très préparées à l'avance. On ne sait pas combien de scènes ont été faites avant d'arriver à trouver la bonne, surtout aux États-Unis, parce que leurs vidéos sont, je dirais, un film d'Hollywood.
Enfin, celle du Nitri qu'on a vu avec les robots qui font la chorégraphie, elles sont pas mal non plus. Hein,
ouais, mais pour le coup, on les a déjà vus en live sur des scènes. Donc c'est la grosse différence avec les Américains. C'est que les Américains voient des vidéos, mais moi je les vois jamais faire des shows dans des salons réellement.
Ceux de Figure, ils sont toujours, quand je les ai vus sur des salons, ils sont enfermés dans des petites cabines.
Le Tesla Optimus, c'est pareil, l'année dernière, ils étaient ici enfermés dans une cabine. Ouais. Et ils les mettent.
Peut-être plus prudent aussi.
Tout à fait. Et c'est vrai que même Tesla, on l'a vu dans certaines vidéos aussi, lorsqu'ils sortent les robots, ils sont complètement téléopérés. Lorsqu'on voit ce robot qui sert des pop-corns, il y avait un gars derrière avec un masque en VR qui faisait les mouvements. Donc, il y a un gap, en effet, j'ai l'impression, entre les États-Unis, la Chine aujourd'hui, qui n'a pas peur de présenter, de montrer, quitte à avoir des bad buzz parfois sur des robots qui se gamellent.
Il y avait un robot, Unitri, qui pétait les plombs dans une usine à un moment, je me souviens, où on le voyait qui commençait à taper.
Non, c'était dans un lab, mais c'est simplement parce qu'à un moment donné, le robot ne touche plus le sol, il perd le contact au sol et d'un coup, il commence à paniquer. Voilà. Donc, voilà, bon, alors ça fait.
Il commence à paniquer. Non, mais c'est vraiment les expressions qu'on utilise, hein, parce que c'est vraiment des expressions qui sont purement humaines et non, un robot, il n'a pas paniqué en réalité. Il est juste.
Il a besoin d'être en contact au sol pour trouver, recalculer son équilibre, en fait. Mais simplement pour dire que sur la partie manipulation, ici à VivaTech, cette année, on présente avec une jeune start-up française, Bleu Robotique, une démonstration, justement, 100% autonome, qui a été apprise avec quelques dizaines de répétitions où on a, et d'ailleurs, ces répétitions se sont faites dans nos bureaux chez Innovate, donc on a pu assister vraiment en temps réel au travail qui a été fait, et donc on n'avait pas besoin de centaines et de centaines d'heures de travail pour que le robot prenne un objet, l'installe dans une machine, ferme le capot, lance la commande de gravure laser et ressort le produit.
Ouais.
Donc on a déjà des prémices aujourd'hui de ce qui est en train d'arriver.
Jusqu'où on peut aller et c'est quoi le calendrier quand on dit voilà un robot qui sera capable de réaliser potentiellement n'importe quelle tâche? Marine, moi encore une fois, ce qui me frappe sur ces différents salons VivaTech, le CES, c'est que j'ai l'impression que maintenant il y a plein de boîtes qui se sont spécialisées sur une partie spécifique du robot. Donc il y en a qui font le robot, l'humanoïde, il y en a qui bossent sur la main, la dextérité, le cerveau. J'ai vu des boîtes dont le but c'était d'avoir des robots les plus réalistes possibles, donc ils font des peaux en silicone, des yeux, etc. À la fin, c'est quoi? On imagine Westworld ou iRobot, enfin des séries comme ça. Comment est-ce qu'on se projette un peu?
Mais je pense aussi. Alors effectivement, ils se positionnent sur des choses très spécifiques, mais quand même, ce qui est visé, c'est un peu d'avoir un robot généraliste, enfin qui, parce qu'aujourd'hui justement, ils sont hyper spécialisés. Et si j'ai changé dernièrement avec une startup qui s'appelle Genesis, qui est une startup française qui vient de présenter son premier robot et qui m'expliquait que l'idée c'était quand même d'avoir, comme pour les grands modèles de langage qui ont appris une quantité via une quantité de texte impressionnante sur sur Internet des sortes de capacités générales sur le monde, mais de manière textuelle. Là, c'était de faire la même chose en robotique, en les nourrissant de vidéos, donc d'images de gens en train de faire des Rubik's Cube, en train de remplir un lave-vaisselle, mais des choses vraiment très variées, pour que in fine, ils arrivent à s'adapter dans n'importe quelle situation, et que justement cette connaissance générale leur permette d'être experts, en tout cas très bons dans certains domaines. Mais je crois que ce qui leur manque aujourd'hui, c'est les données, justement. Enfin, peut-être qu'on y reviendra, mais c'est pour arriver donc à ce monde quand même où les robots arriveront, comme dans Westworld, à s'adapter à leur environnement et voilà, à être hyper réalistes. Ils ont besoin quand même d'énormément de données, ce qu'on trouve beaucoup moins facilement que le texte, parce que c'est des vidéos quand même qui sont censées être prises du point de vue de l'humain ou du robot qui n'existe pas en aussi grande quantité.
Pour l'anecdote, on va parler des données justement, parce que effectivement c'est le point clé. Il y a une entreprise aux États-Unis, là on en a parlé il y a pas longtemps sur BFM Business, qui propose maintenant de faire le ménage gratuitement chez vous. Et donc la femme de ménage ou l'homme de ménage arrive, mais il a une caméra frontale qui filme tout ce qui se passe, et ces données servent à entraîner les robots. Et du coup, en échange, vous payez pas votre ménage, mais la data a cette valeur-là. C'est la clé de tout, la data, Olivier, pour entraîner ces robots et aller vers ces robots multifonctions.
Alors ça a été les données. Hein. Il y a eu plusieurs ruptures scientifiques qui ont montré que on arrivait à passer les paliers quand on avait suffisamment de données. Et je pense que le pari de Genesis, c'est de dire, oui, mais ces données-là, est-ce qu'on peut pas les générer si on est capable de bien simuler le monde? Voilà. Et Genesis est connu pour un simulateur qui est très, très fort là-dessus. Et nous, le parti pris qu'on a au niveau de nos laboratoires, c'est qu'on peut pas se permettre de ce que font les entreprises chinoises qui ont des entrepôts entiers avec des gens qui télopèrent des robots. Et donc, ce qu'on fait, c'est que on prend des vidéos sur Internet et on essaye d'avoir un pipeline logiciel complet qui prend la vidéo et qui le refait sur le robot. Et ça marche. Ça explose, à mon avis, sur Internet, et ça va permettre de faire toute une gamme de mouvements qu'a décrit Stéphane précédemment, qui sont pas très précis, parce que Marine l'a très bien dit, il y a quand même un gros problème avec la dextérité. Et on n'imagine pas à quel point les mains humaines sont extrêmement difficiles à refaire, d'accord ? La plupart du temps, avoir des données qui sont pertinentes pour le robot, elles sont extrêmement difficiles. Il y a toujours un gap entre ce qu'on montre par un robot, on n'est pas toujours capable de refaire ce qui est démontré par un être humain. Et là, vraiment, c'est assez difficile. Et juste un dernier commentaire sur la question des world models du mouvement. Il y a vraiment un point qui est extrêmement important, c'est qu'à l'heure actuelle, les VLA, ils fonctionnent. C'est à une rupture.
Les VLA, c'est ?
Les Vision Language Action Models, où à partir...
Alors c'est quoi ? Voilà, expliquez-nous.
On regarde une scène, le robot est capable de le comprendre, il utilise un LLM pour avoir une séquence de tâches. Un opérateur non roboticien lui donne un ordre, par exemple, mais débarrasse la table. Et donc le robot en déduit toute une séquence d'actions à faire.
Ok.
Ça fonctionne depuis 4-5 ans, on a eu les premiers trucs. Sauf que ça fonctionne 50% du temps. Vous mettez ça dans une entreprise, vous bloquez une chaîne de production une fois sur deux, vous avez une grève juste après.
Ah oui, c'est ça. Effectivement, c'est une des limites. Alors, c'est quoi d'ailleurs les grandes limites pour pouvoir arriver jusqu'à ces robots multitâches? On parlait de Westworld, peut-être qu'on exagère un petit peu. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu, c'est cette série où on a des robots qui sont d'un réalisme. On peut même plus faire la différence entre le robot et l'être humain finalement. Je sais pas. Est-ce qu'on y arrivera déjà un jour, à votre avis, vous qui avez encore une fois les mains dans le cambouis algorithmique? Et c'est quoi les limitations technologiques qui nous retiennent par rapport à cette échéance-là?
Plein de fois, j'ai dit qu'il y a des choses qui n'étaient pas possibles et la vérité m'a très rapidement montré que j'avais tort. Donc du coup, je vais être prudent là-dessus. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'état actuel, il y a beaucoup de choses qui sont très difficiles. Et notamment, je pense qu'encore une fois, on l'a bien vu là. Vous l'avez vu, le robot qui a gagné cette année, qui a fait le record du monde. Vous avez vu ce qu'il avait derrière? Il avait un lidar énorme, juste pour être sûr qu'il restait sur la piste et percevoir l'environnement. Vous le faites tous les jours, sans y penser, c'est absolument pas un problème. Et là, on a un vrai nœud de compréhension du monde, de l'environnement, d'une tâche qu'on vous demande et de vous y adapter au niveau du système. Et c'est ce qu'on a vu aussi, c'est pour ça que les Unitree ont tapé sur les téléviseurs. Ils n'ont pas compris le monde dans lequel ils évoluent.
C'est ça, c'est la prochaine étape. Alors, on a la pub dans pas très longtemps, mais juste une dernière question pour tous les deux. Pourquoi est-ce qu'on choisit comme form factor l'humanoïde? Moi, j'ai l'impression que, déjà, c'est le plus effrayant pour les êtres humains quand on est face à un truc qui nous ressemble vaguement. On a ce sentiment un peu de malaise, un peu bizarre. Et est-ce que c'est vraiment le format le plus efficace pour réaliser toutes les tâches qu'on veut réaliser?
Au final, on a créé un monde qui est adapté à l'homme. Les poignées de porte, il y a plein de... les tailles des tables et ainsi de suite. Donc en fait, finalement, le robot humanoïde, c'est celui qui va s'intégrer le plus facilement dans notre environnement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on pousse vers ce robot universel qui ressemble qui ressemble à l'homme en termes de taille, en termes de nombre de bras. Pourquoi on lui rajoute pas 4 bras? En fait, déjà pour lui apprendre avec à 2 bras, on peut faire beaucoup de choses. Donc on se rapproche de plus en plus, et dans les entreprises, on voit aussi émerger un besoin de robots à roues. Par exemple, où on se dit des fois, les jambes ne sont pas forcément nécessaires. Limite, c'est un handicap, c'est trop c'est long. Ouais. Et donc, on commence à voir justement une génération de robots motorisés sur des bases AMR qui permettent de pivoter, d'être beaucoup plus fluide, moins d'à-coups que des robots à jambes.
Olivier, d'un mot ?
Oui, alors moi, je m'intéresse aux robots humanoïdes parce qu'en fait, ce qui me fascine, c'est ce que sont capables de faire les êtres humains et essayer de reproduire et développer des nouvelles techniques d'intelligence artificielle sur des structures équivalentes.
Bon, pour conclure, Marine, et après on passe.
Oui, non, effectivement, je pense que déjà, ça relève aussi un peu d'un fantasme et de l'idée que, effectivement, si on reproduit des robots qui nous ressemblent, on arrivera à mieux interagir avec eux. Mais par contre, effectivement, ils sont pas toujours hyper adaptés. Dans les usines, par exemple, c'est peut-être pas utile d'avoir des jambes. Voilà.
Bon, je pense qu'on a fait un bon état des lieux. D'où est-ce qu'on en est dans les avancées incroyables de la robotique? Une petite page de pub et on se retrouve juste après. On va se poser la question, est-ce qu'on est prêt pour la révolution? Qu'est-ce qu'elle va changer dans nos vies personnelles et professionnelles? Restez avec nous, on se retrouve tout de suite sur BFM Business.
Les experts de l'IA sur BFM Business.